Vie de Thomas, Aldham Thomas Aldham, 1616-1660 fut l'un des tout premiers convertis de George Fox dans le comté de York. Sa mère, son épouse et ses deux sœurs furent toutes convaincues à peu près au même moment, en l'année 1651. Il résidait à Wormsworth près de Doncaster, où il était né en 1616. L'année qui suivit sa conviction par Fox, il fut emprisonné au château de York pendant 2 ans et demi, le premier de nombreux Quakers incarcérés en ce lieu. Durant son emprisonnement, il écrivit de nombreux textes qui furent publiés. Certains de ses descendants étaient encore Quakers en 1905. Il reste peu de traces accessibles de ses écrits, si bien que cette page web est très courte, mais il ne faut en aucun cas en déduire qu'il ne fut pas, lui aussi, un véritable digne serviteur du Seigneur, le servant avec un grand dévouement et un grand zèle, avec beaucoup d'efficacité. Avant de connaître George Fox, il semble avoir été un homme porté à la religion et très attaché à certains ministres de son temps, probablement ce qu'on appelait puritains, lesquels, à cette époque, ayant renversé l'épiscopat, s'emparèrent des lieux de culte public et des bénéfices de leurs prédécesseurs. Cependant, il en vint à en être mécontent, car il aspirait à un degré de lumière spirituelle et de pureté plus élevé que tout ce qu'il avait rencontré jusque-là. Tel était son état lorsque George Fox arriva dans les environs de sa demeure, et par le ministère duquel il fut effectivement tourné des ténèbres vers la lumière et de la puissance de Satan vers Dieu. La doctrine de la lumière divine, ou de l'Esprit du Christ illuminant l'âme et lui ouvrant le chemin de la vie et du salut, fut volontiers reconnue par lui. Par là, il fut détourné de sa dépendance envers ses anciens maîtres, séparé des voies du monde et rendu capable de porter un témoignage vivant à la vérité, invitant les autres à goûter et voir combien le Seigneur est bon. Dans ses travaux de ministère, il n'était pas seulement éprouvé dans les réunions des amis, mais il fréquentait souvent les lieux de culte public, où il était fréquemment poussé à parler des choses de Dieu, et parfois, à témoigner contre la conduite tant des prêtres que du peuple. Il fut ainsi engagé à Wormsworth, Hatfield, Wickersley, Edlington, Tickhill, Bawtry, Thorn, Ransworth, Rossington et Pontefract. Dans presque tous ces endroits, il subit un traitement très grossier et sévère, mais à Thorn, lorsque le prêtre ordonna au connétable de faire sortir ce compagnon grossier et impoli, qui est entré si incivilement et a semé le trouble, le connétable, d'un esprit différent de celui du prêtre, répondit « Il ne dérange personne, et personne ne lui fait de mal ». Après que le prêtre eut terminé son sermon, Thomas Aldham prêcha au peuple. Des gens du bas peuple, suivant l'exemple de leur prêtre, l'injurièrent, et non content de paroles, passèrent au cou, des mains et des pieds, ils lui crachèrent même dessus, le chassant de leur église, comme ils l'appelaient. Toutefois, ce fut là un exemple plutôt favorable du traitement qu'il recevait généralement en ces occasions. Vers l'année 1652, à la suite d'une intervention de ce genre à Wormsworth, il fut envoyé au château de York par les juges de paix d'Ancy Wentworth, John Copley, George Biard et Thomas Westby. Il est probable qu'il fut le premier ami emprisonné en cet endroit pour ses principes religieux, et il y demeura prisonnier environ 2 ans et demi. Durant ce temps, non seulement il lui fut interdit de visiter sa famille, mais on refusait souvent à son époux et à ses proches l'autorisation de lui rendre visite. Pendant cette longue détention, il fut traduit en justice devant le juge Park, mais Thomas Aldham refusa, par scrupule de conscience, de rendre au juge le compliment habituel consistant à ôter son chapeau, et il s'adressa à lui en le tutoyant plutôt qu'en le vouvoyant. Le juge lui fit de sévères remontrances sur sa conduite, le condamna à une amende de 40 livres, et le renvoya en prison avec ordre qu'il fût détenu au secret jusqu'au paiement de l'amende, mais, sur requête adressée à Oliver Cromwell, un ordre fut donné pour sa libération. Il supporta ses souffrances avec beaucoup de patience, dans le sentiment de la bonté du Seigneur envers lui, et eut bien des occasions de service religieux, ainsi que de protester auprès des juges et des magistrats contre les cruautés qu'ils infligeaient à un peuple innocent. Outre cet emprisonnement, il subit aussi de nombreuses saisies de ses biens pour avoir refusé de payer la dîme et d'autres exigences ecclésiastiques. L'inimitié du prêtre de Wormsworth était si grande qu'après que toutes les vaches d'Aldham lui eurent été prises, et qu'il eût emprunté une vache à un parent pour fournir du lait à sa famille, le prêtre cruel menaça de la lui prendre aussi. Ce prêtre, toutefois, tomba dans la pauvreté, ses propres enfants dissipant prodigalement ses biens, et lui-même mourut soudainement. Bien que Thomas Aldham ait beaucoup souffert, dans son corps comme dans ses biens, à cause de ses principes religieux, ses préoccupations ne se limitaient pas à lui-même, mais s'étendaient à ses amis persécutés dans diverses régions du pays. Il leur rendait visite dans les prisons, voyageant dans une grande partie de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande, et attirant l'attention des autorités sur leur situation affligeante. C'est à l'une de ces occasions, Alors qu'il sollicitait Oliver Cromwell pour obtenir secours, qu'il ôta sa coiffe devant le protecteur et la déchira en morceaux en disant « Ainsi votre gouvernement sera-t-il déchiré, vous et votre maison ?» Cette prophétie s'accomplit peu avant sa mort, en 1660. Extrait du journal de George Fox, Thomas Aldam et Anthony Pearson furent poussés à parcourir toutes les prisons d'Angleterre et à obtenir des copies des actes d'incarcération des amis, signés de la main des geôliers, afin de faire peser le poids de leurs souffrances sur Oliver Cromwell, ce qu'ils firent en personne. Et lorsqu'il refusa de donner l'ordre de les relâcher, Thomas Aldam fut poussé à enlever sa coiffe de sa tête, à la déchirer en morceaux devant lui, et à lui dire « Ainsi votre gouvernement sera-t-il arraché à vous et à votre maison ?» Il était un vrai prophète et digne du Seigneur. Dans sa dernière maladie, il éprouva beaucoup de soutien intérieur et de résignation quant à l'issue. À un moment, il sentit ses forces tellement renouvelées qu'il crut pouvoir aller à Londres, si on le lui demandait, mais il ajouta bientôt « Je suis quitte du sang de tous les hommes. Je ne sens rien pour cet homme », entendant par là le roi Charles I, qui venait d'être restauré sur le trône. La veille de sa mort, il rassembla ses enfants et, après leur avoir donné quelques conseils, prit congé d'eux, et le lendemain, il remit son âme entre les mains de son Créateur. D'après le portrait que je trouve dressé de cet ami, il semble avoir possédé de nombreuses qualités excellentes. C'était un homme d'un grand courage et d'une grande fermeté d'esprit, et entièrement dédié au service de Dieu et au soutien de ses principes religieux, il travailla et souffrit beaucoup en ce temps de violence et de persécution. Si son témoignage était tranchant contre les auteurs du mal, il était très plein de tendresse envers ceux chez qui il découvrait des désirs sincères tournés vers Dieu et vers la connaissance de sa vérité. C'était un homme d'une charité universelle, manifestant une disposition à faire du bien à tous les hommes et montrant ainsi la louange de celui qu'il avait appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dans sa propre famille, pour reprendre les mots de son fils, il avait souvent le cœur très brisé, veillant sur ses enfants dans la crainte du Seigneur. Et lorsque je me rappelle la ferveur d'esprit qui l'accompagnait, et comment, quand il s'apprêtait à entreprendre un voyage pour la cause de la vérité, il appelait sa femme et ses enfants et, avec grande tendresse et humilité, fléchissait les genoux devant le Seigneur et répandait ses supplications devant lui, désirant ardemment que le Seigneur l'accompagnât, et nous remettant à sa garde, et quelle contrition du cœur régnait parmi nous en ces moments, et combien l'amour de Dieu abondait. Alors mon âme peut dire, c'était des saisons précieuses, et elles ne doivent pas être oubliées de nous, mais consignées pour la postérité, afin que nous puissions le dire à nos enfants, et qu'eux aussi puissent déclarer, quand nous ne serons plus, combien le Seigneur a été bon envers son peuple, et combien ils ont grande raison de l'aimer et de mettre en lui leur confiance, afin que son nom soit renommé parmi nos familles, aussi longtemps qu'elles auront existence. Il a déjà été remarqué que la mère, l'époux et les deux sœurs de Thomas Aldam furent toutes convaincues par George Fox. Au sujet de sa mère, nous ne trouvons rien de plus. Son épouse ne lui survécut que d'environ 3 mois, c'était une femme pieuse, d'un esprit très doux et paisible, abandonnée en toutes choses à la disposition de Dieu. Ses deux sœurs, Margaret Kellam et Joan Kellam, demeurèrent fidèles aux convictions qu'elles avaient reçues et furent toutes deux des femmes utiles dans la société. Margaret voyagea beaucoup au service de la vérité et beaucoup furent convaincus par elle. Elle souffrit l'emprisonnement en plusieurs endroits, tels qu'Exeter, Banbury et York. Grande, dit son neveu, était l'audace qui l'accompagnait pour faire retentir la vérité dans les rues, les maisons à clocher et les places de marché, ainsi qu'auprès des chefs et gouvernants du peuple, et le Seigneur était avec elle. Elle acheva sa course dans la foi, signifiant à un proche parent, avant son départ, la grande paix dont elle jouissait avec le Seigneur et la clarté de conscience qu'elle avait devant lui. Elle mourut en l'année 1672. Joan Kellam mourut en l'année 1681, après avoir été une femme très utile et d'une grande expérience religieuse, par laquelle elle devint comme une mère en Israël, et une tendre compatissante envers ceux qui étaient dans un état de souffrance, soit du corps, soit de l'esprit. L'objectif de ce site web est de montrer comment être affranchi du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.